Chapitre 10. Siméon était en apprentissage depuis 4 mois et son maître se disait content de lui. Un drôle de corps, ce vieux Charlet, petit, mince, effilé comme une aiguille et toujours coiffé d'une énorme casquette noire, à oreilles, à visière, par-dessus laquelle il nouait avec des cordons un large garde-vue en carton vert. Il soignait les montres du village avec une sollicitude affectueuse dont on lui savait gré, bien qu'on en rît un peu. Il ne demandait jamais à ses connaissances quand il les rencontrait « Comment allez-vous ? » Mais « Comment va votre montre ?» Tous les instruments chronométriques de la localité devaient, bon gré mal gré, passer entre ses mains au moins une fois l'an. Il en savait le compte et allait au besoin quérir lui-même ce qui manquait à la revue. Une montre, disait-il, est une créature délicate et fine qui vit d'une goutte d'huile en 12 mois, mais encore la lui faut-il cette goutte d'huile, dont par négligence on la prive. C'était pour assurer après lui, à ses rouages qu'il aimait, les soins nécessaires, qu'il s'était décidé à former un apprenti. Après de longues réflexions, son choix était tombé sur Siméon Taubert, dont la physionomie lui plaisait. Il l'avait installé à côté de lui, sur une haute chaise à vis, devant l'établi couvert d'outils menus, de petites fioles d'huile fine et de poudre à polir, de petites cloches de verre, de petits carrés de papier brun, enveloppant des vis imperceptibles ou des spiraux plus fins que des cheveux. Puis il s'était efforcé, par ses paroles et son exemple, de communiquer à son élève l'enthousiasme qu'il animait lui-même pour son art. Mais Siméon ne s'enflammait pas. Les journées lui paraissaient longues. Il n'était pas accoutumé à rester immobile pendant des heures, courbé sur un ouvrage dont la ténuité lui fatiguait les yeux, lui crispait le bout des doigts. Il ne se montrait pas trop maladroit, il était appliqué, soigneux, mais le feu sacré lui manquait. « ça viendra », disait le vieux Charlet. « Chaque jour amène un petit progrès. Il faut aller en avant, puisqu'aussi bien on ne peut pas aller en arrière. » C'était son dicton favori, maxime indiscutable, qui résumait pour lui l'expérience des siècles et la sagesse des nations. Siméon allait donc toujours en avant, sans grand entrain, chérissant toujours au fond du cœur ses anciens projets. « Après tout, disait-il à Ferdine pour s'encourager lui-même, je serai peut-être bien aise un jour d'avoir appris l'état d'horloger. Avec quelques outils dans une sacoche, on peut voyager, gagner sa vie partout où il y a des montres, voir et apprendre des choses qu'on n'apprendrait pas dans les livres. » Ne crois pas que j'ai renoncé à faire mon chemin dans les sciences naturelles, j'y songe plus que jamais. Il me faudra quelques années de plus, voilà tout. Ferdine allait quelquefois se promener seul au bout du village, sur la route bordée de saules gris qui longeait les écluses. Quand elle passait devant la petite maison du vieux Charlet, et que, derrière la fenêtre basse, elle voyait Siméon penchant la tête sur quelques minutieuses besognes, l'œil dans un microscope, les deux mains occupées à un petit frottement qui semblait n'avoir pas de but, elle se détournait avec un serrement de cœur. À côté de lui, la casquette légendaire du vieil horloger et son immense avant-toit de carton se dessinaient comme une caricature. Il semblait à Ferdine que les ridicules du maître rejaillissaient en quelque mesure sur l'apprenti. S'il fallait absolument mettre Siméon en apprentissage, ne pouvait-on du moins lui choisir un maître qui ne fût pas grotesque? La vie de Ferdine était bien changée depuis 4 mois. Plus de leçons de latin, plus de promenades, plus d'heures passées ensemble chez tante Cornélie, à regarder des planches d'histoire naturelle et à bavarder gaiement. À peine se voyait-on quelques minutes dans l'intervalle de repos qu'on appelle au village l'entre midi et 1 heure. Aussitôt le dîner fini, Ferdine s'esquivait, accourait chez tante Cornélie. « Faisons vite une petite causette, » disait-elle. Mais Siméon n'était pas toujours en veine. Il fallait lui arracher chaque mot. Au coup de l'heure, il se précipitait sur son chapeau et sortait en courant. Et Ferdine passait tristement l'après-midi en tête-à-tête avec Mademoiselle Caton, se disant que le bon temps ne reviendrait plus. Comme Siméon avait ses soirées libres, il continuait ses fonctions de comptable chez Mademoiselle Augustine. Une 50aine de francs sonnait dans la tirelire. « Avec cet argent, j'achèterai mon trousseau de voyage quand je partirai pour mon tour d'Europe. disait Siméon. La perspective de ce grand voyage lui rendait parfois quelque gaieté, mais la monotonie de son travail lui engourdissait les doigts. L'agencement des rouages les plus ingénieux ne l'intéressait que médiocrement, il n'aimait que ce qui vit, ce qui remue spontanément. Les allées et venues d'une fourmi qui trottait effarée sur l'établi le captivait plus que la description des merveilleux automates de l'horloge de Strasbourg que son maître avait vu dans sa genèse et qu'il n'était jamais là de lui décrire. L'hiver s'écoula ainsi, uniforme et triste pour les trois amis. Ernest regrettait le bon temps jadis, si rapproché encore et qui pourtant semblait déjà si lointain. C'est à peine s'il voyait son frère maintenant, sauf à l'heure des repas. Quant à Ferdine, elle était vouée à la broderie anglaise et aux regrets. Les jeudis étaient célébrés comme des anniversaires de deuil. « Pauvre Siméon, il n'a plus de jeudi !» soupirait Ferdine. La luge ne sortait plus de la remise, les collections étaient envahies par la poussière. Sans Siméon, pouvait-on songer à des parties de traîneau ? Trouvait-on quelque intérêt à regarder de vieux cailloux dont lui seul savait l'histoire ? Rien ne dure en ce pauvre monde, mes enfants, disait tante Cornélie, et cette remarque n'était pas de nature à leur rendre beaucoup de gaieté. On était au mois d'avril. Les premières ondées du printemps, tièdes et capricieuses, tombaient sur les champs de neige. De grandes taches brunes, s'élargissant tous les jours, marquaient les pentes exposées au soleil, et déjà une vague teinte verte, promesse d'herbes nouvelles, égayait les berges des ruisseaux. Les roues du moulin recommençaient à tourner, les canards se hasardaient au bord de l'étang et contemplaient de gros glaçons qui passaient vite, emportés vers l'écluse par la crue des eaux. Sur le trottoir déjà séché, les gamins du village jouaient aux billes. Siméon les regardait de sa fenêtre basse. Sa vie casanière lui devenait chaque jour plus insupportable. Il s'imaginait entendre les premiers appels de l'alouette, le bruit murmurant des mille petits ruisseaux qui glissent sous la neige à demi fondue, voir les morilles qui surgissent, brunes et spongieuses, sous la pluie tiède, au pied des sapins. Il croyait sentir sur ses lèvres la saveur de ces brins d'herbe sèche que l'on mâchonne dans sa première promenade et auxquels on trouve un goût de printemps. Il ne pouvait tenir en place, il n'avait plus le cœur à sa besogne. Il attendait le dimanche avec une impatience qui ressemblait à de la fièvre. « Nous ferons une grande promenade tous ensemble, n'est-ce pas ? » dit-il à sa tante. « Et Ferdinand en sera, elle est toute pâle depuis quelque temps, elle a besoin de grand air. » Tante Cornélie eut beau lui représenter que les chemins étaient affreux, qu'elle y laisserait ses galoches, Siméon ne voulut rien entendre. « Nous irons au Seigne, dit-il, les tussilages doivent être fleuris sur les pentes. » Le dimanche vint, et avec lui un joli temps un peu brouillé, quelques gentilles ondées s'égouttant entre deux rayons, de la pluie ensoleillée. Siméon ne voyait que le soleil, sa tante ne voyait que les averses. « Va-t-on courir les champs par un temps pareil ? » disait-elle. « Peut-on bien rester chez soi par un temps pareil ? » rétorquait Siméon. Enfin, la bonne tante céda, non sans quelques soupirs. Elle releva d'une main les plis de sa robe de mérinos noir, prit de l'autre son parapluie, et la petite caravane se mit en route à travers les flaques qui brillaient au soleil. Ferdine était bien joyeuse ce jour-là, mais Siméon l'était encore plus qu'elle. Il oubliait le vieux Charlet et les déboires de la semaine et tous les soucis passés, présents et futurs. Il avait pris Ernest sur ses épaules, il courait en avant, sautait, revenait, sifflait des bouts de mélodie qui ne ressemblaient à rien. En un endroit, le chemin, coupé d'un ruisselet, devint fort mauvais. Siméon supplia sa tante de lui permettre de la porter jusqu'au terrain sec. « Pour l'amour de vos bottines, de vos jolies bottines, tante Cornélie !» cria Ferdine. « Laissez-le faire, ce serait si amusant. Nous allons voir s'il est assez fort pour vous porter. » Tante Cornélie s'en défendit d'abord avec dignité, mais la flaque était large et semblait profonde. Elle s'arrêta perplexe. Siméon aussitôt l'enleva dans ses bras, bien qu'elle résistât un peu, et la déposa sur l'autre bord avec une exclamation de triomphe. « À ton tour, Ferdine » s'écria-t-il. « Jamais de la vie » répliqua-t-elle d'un ton indigné en s'élançant comme un jeune canard au milieu de la flaque. Te voilà les pieds mouillés, mon enfant, dit tante Cornélie avec inquiétude. Ils sécheront. D'ailleurs, on ne s'enrhume pas quand on est très, très contente. Tante Cornélie hocha la tête à cet axiome nouveau pour elle. Et de quoi donc es-tu si contente, ma petite ?
De tout, répondit-elle avec élan. Il me semble que le bon temps est revenu.
Mademoiselle Cornélie lui caressa la joue et la regarda avec une tendresse un peu triste, mais elle n'ajouta rien. Pour elle, le bon temps n'était pas revenu. Elle avait des soucis bien réels et bien lourds. Elle se demandait si elle avait fait fausse route à l'égard de Siméon et quels sacrifices elle aurait pu s'imposer encore pour lui ouvrir un avenir conforme à ses goûts. Elle était bien lasse aussi, cette pauvre tante Cornélie. L'hiver, qui rend la vie plus coûteuse et plus compliquée, lui avait paru fort long, son travail à l'aiguille la fatiguait plus qu'autrefois. Elle se demandait si elle aurait la force d'aller jusqu'au bout de sa chère et lourde tâche, l'éducation de ses neveux. Siméon est encore bien enfant, se disait-elle en le suivant des yeux, comme il escaladait les pentes d'où il dégringolait ensuite, avec quelques brindilles vertes ou quelques tiges d'hélébore dont l'odeur mettait Ferdine en fuite. Siméon, lui, affectait de respirer ce parfum avec délice. « Quel arôme !» disait-il, une main sur son cœur, tandis qu'Ernest répétait, en éclatant de rire, « Quel arôme !» avec la même intonation. « Je vous disais bien que nous trouverions des tucilages !» s'écria Siméon quelques minutes plus tard. « En voilà toute une colonie là-haut !» Il grimpa au sommet du talus, laissant l'empreinte de ses semelles dans la terre grise et molle qui s'y collait. La main pleine de ces petites fleurs jaunes emmitouflées d'un duvet blanchâtre, que les enfants appellent des padanes, il redescendit en deux bonds pour offrir sa cueillette à Ferdine. « Mets-les à ton chapeau !» lui dit-il. Ce chapeau était un joli feutre gris clair, orné d'une aile d'oiseau blanche comme celle d'une colombe. Ferdine hésitait un peu à le décorer d'une plantation de padanes, mais comme Siméon semblait y tenir, elle le fit. Nos promeneurs arrivaient à la maison des Seignes, qu'ils laissèrent derrière eux pour traverser le plateau. Ferdine devenait plus grave. Ce chemin, séchant, les lignes des montagnes à l'horizon lui rappelaient trop vivement le jour de leur dernière course, qui avait été celui de leur première querelle. Comme la neige diminue rapidement, dit Siméon en l'écartant du bout du pied pour mettre à découvert le gazon flétri. Tiens, fit-il tout à coup, si j'allais à la recherche de mon couteau, là-bas dans la combe, sous les petits sorbiers. Je découvrirai peut-être en même temps pourquoi la neige était si molle ce certain jour. Je me le suis demandé, je ne sais combien de fois depuis lors. Il prit sa course à travers les champs détrempés, tandis que sa tante et Ferdine, plus soucieuses de leurs chaussures, marchaient à petits pas entre les deux ornières du chemin, sur les grosses pierres grises qui le pavaient de distance en distance. Siméon tarda longtemps à revenir, si longtemps qu'enfin Ernest lui fut dépêché par sa tante. « J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de fâcheux, » disait tante Cornélie quand rien n'inquiétait. « Cette terre humide est si glissante. Il courait, il se sera peut-être tourné le pied. »« Non, le voici qui remonte avec Ernest. Pourquoi es-tu resté si longtemps, Siméon ?»«
J'ai retrouvé mon couteau, » dit-il.
Il tenait dans sa main un objet noirci, rouillé, méconnaissable, qu'il tendit à Ferdine.
« Ça, ton couteau ? Mais qu'as-tu donc, » fit-elle, « tu as l'air tout drôle. »
Il ne répondit pas immédiatement. Il s'occupait à débarrasser ses souliers de la terre glaise dont ils étaient chargés.
« Moi, j'ai chaud, » dit-il enfin.
Des gouttes de sueur roulaient en effet sur ses tempes.
« Peut-on se mettre dans un tel état pour un vilain couteau que je ne toucherai pas du bout du doigt tant il est sale ?» dit Ferdine. « As-tu découvert au moins pourquoi la neige était molle ?»«
Je crois que oui, » répondit-il d'une voix singulièrement troublée. Il toussa pour la fermer, puis il se tourna vers tante Cornélie. « À qui appartiennent les terrains qui se trouvent là-bas, au fond de la combe » demanda-t-il.
« C'est une propriété communale, de mauvais prés maigres, que je ne te conseille pas d'acheter, » dit tante Cornélie en riant. « On n'a pas même pris la peine de les faucher l'année dernière, tant l'herbe y était pauvre, à ce que j'ai entendu dire.